Et bonjour, bienvenue à nouveau pour un nouvel épisode de Kixa. Vous êtes en compagnie de Laetitia aujourd'hui et Morgane à nouveau. Salut Morgane.
Salut Laetitia.
Et ben, pour ceux qui étaient là la semaine dernière avec nous, vous avez rencontré, voire re-rencontré Morgane qui vient de temps en temps faire des émissions avec moi. Et ben, on s'est tellement amusé qu'on s'est dit pourquoi pas recommencer cette semaine. Donc on va continuer un petit peu sur la lignée de ce qu'on avait fait la dernière fois. Je crois que Morgane, on va commencer par un petit truc que tu nous as préparé, tu nous le présentes ?
Mais tout à fait, mais pour ceux qui se rappellent, ça s'appelle le petit trivia cinéma pour briller en société. Deuxième partie donc.
Yeah, yeah, yeah.
Alors on commence avec la première question. Lors de l'élaboration du premier Toy Story.
Tout à fait.
Il y a un personnage qui s'appelle Buzz l'éclair.
Oui. Un petit personnage secondaire,
oui,
sans trop d'importance.
Oui, personnage secondaire, voilà, tout à fait anodin dans l'histoire. Mais de base, il ne s'appelait pas Buzz l'éclair.
Mais non.
Non, il ne s'appelait pas Buzz l'éclair. J'ai trois propositions à te faire.
Ok, vas-y.
Alors, est-ce que de base, Buzz l'éclair s'appelait Astro Kitten ?
Astro Kitten, comme le chat astral ?
Ouais.
Kitten ?
Ok. Kitten. Lunar Larry ?
Lunar Larry.
Ou Mooney Mike ?
Ouh, j'hésite. J'ai du mal à imaginer le Astro Kitten, parce que je vois pas trop la relation entre Buzz l'éclair et un chaton. En plus, Kitten, c'est pas cat, quoi. C'est pas chat, c'est chaton. Et j'hésite entre Lunar Larry et Mooney Mike.
Mooney Mike.
Parce que c'est vrai qu'il a une bonne tête de Larry et une bonne tête de Mike. À mon avis, je vois plus des Américains choisir Mike comme nom emblématique, donc je dirais Mooney Mike.
Non, c'est Lunar Larry.
Il a
tout à fait une tête de Larry.
C'est vrai qu'il a une tête de Larry. Ça fait un peu penser à Luna Lovegood, je trouve, Lunar Larry.
Un petit peu, ouais, c'est vrai. Et du coup, à la fin, ils l'ont renommé Buzz l'éclair en hommage à Buzz Aldrin, qui est un des hommes qui était dans la première mission, des hommes qui ont marché sur la Lune. Ah. Le premier qui a marché sur la Lune, c'est Neil Armstrong. Et le deuxième, c'est Buzz Aldrin. Et il y en a un qui n'a jamais marché sur la Lune, qui est resté dans la fusée, parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui reste.
Comment ça, qui restait sur la fusée ?
Qui reste dans le module, en fait, lunaire, et qui n'est jamais allé sur la Lune, qui n'a jamais posé le pied sur la Lune. Il est allé sur la Lune avec les deux autres, mais il n'est pas descendu, tu vois.
Moi,
pas marché sur la Lune.
Moi, j'ai cru que tu disais qu'en fait, il était allé sur la Lune là-bas et qu'ils avaient laissé le mec. Parce que tu comprends, il faut qu'il y ait un truc. Je me suis dit, quand même, c'est chaud quand même d'être astronaute et de se dire, ok, ça y est,
allez,
pars de la Terre et je reviens plus.
Exactement.
Ok, d'accord, ça va. Ok.
Ok, pour la deuxième question, on parle encore d'une saga emblématique du cinéma. J'ai nommé Matrix, bien sûr. Donc, à chaque fois que les films, ils commencent, tous les films Matrix, les quatre films, il y a une espèce de pluie digitale sur un fond noir. Là, il y a du code qui apparaît, des lignes de code verticales, vertes, qui descendent. Et puis, je crois que ça forme le titre Matrix. Bon, ces lignes de code, elles sont censées représenter les lignes de code de la matrice,
tout à fait.
L'univers virtuel où vivent les personnages du film. Mais du coup, elles veulent dire quoi dans la réalité, ces lignes de code ? Tu crois qu'elles veulent dire quelque chose ?
Moi, à mon avis, je pense que, comment dire, ça m'étonne. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas pu résister à mettre des petits trucs dedans. C'est trop.
Et donc, à ton avis, qu'est-ce que ça pourrait être en termes de catégorie ? Tu vois, c'est quoi ? C'est un poème ? C'est un script ? C'est une discussion ? C'est des blagues ? C'est quoi, ton avis ?
Moi, je me demande. En fait, j'aurais aimé, en tout cas, je sais pas si c'est ça, que genre il y ait des infos un peu plus anecdotiques sur le lore, sur l'univers du truc. Ou bien vraiment des blagues genre Keanu Reeves aime les pâtisseries au chocolat ou des trucs comme ça. Mais voilà, moi je partirai là-dessus.
Alors, pas tout à fait, mais effectivement, c'est une petite blague. En fait, la personne qui a fait ce design s'appelle Simon Whitley. Que l'on salue exactement sur Radio Galère aujourd'hui. Simon, si tu nous écoutes, c'est pour toi cette question. C'est le concept designer du film, un des concept designers, j'imagine, et c'est lui qui a créé ce design. Et du coup, il a révélé dans une interview en 2017, donc mine de rien, relativement récemment, ce que ça veut dire. Et donc, je cite, il dit « J'aime dire à tout le monde que le code de Matrix, c'est des recettes de sushi japonais. »
Mais non.
Et en fait, il a scanné les livres de recettes de son épouse, qui est japonaise.
Oh.
Et du coup, c'est des recettes de sushi. Voilà.
C'est trop mignon. Mais genre, par contre, c'est comment ? C'est-à-dire que si tu fais un arrêt sur image, tu peux voir écrit genre en vertical, certes, mais tu peux voir écrit prenez la casserole.
Non, et non, c'est des lignes de code, donc c'est que des 1 et des 0. Donc après, si tu traduis en langage normal, ça fait des recettes.
Parce qu'il y a eu un. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc. C'est international, un code international pour dire si tu mets tant de 0 et tant de 1, ça fait un A. C'est ça ?
Honnêtement, je ne m'y connais pas plus que ça.
Très bien, on ira vérifier. Voilà, c'est...
On vérifiera.
Trop cool, les recettes de sushi de l'épouse du concept designer. Génial.
Exactement. Alors, pour cette prochaine question, il faut un peu d'éléments de contexte. Mm-hmm. Ça se passe dans le premier film Spider-Man de Sam Raimi, oui. Sorti en 2002, le tout premier film Spider-Man, où il y a une scène culte à un moment dedans, où il y a Tobey Maguire, donc,
l'acteur de Spider-Man.
L'acteur de Spider-Man et de Peter Parker, donc son alter ego humain. Et en fait, à un moment, il y a une scène où il est dans la cafétéria, et puis il y a Mary Jane, ouais. Kristen Dunst, qui trébuche. Et en fait, lui, avec ses spider sense, il la rattrape. Mm-hmm. Et puis, il a le plateau, il rattrape son plateau. Il rattrape tous les éléments de son déjeuner qui se sont envolés dans les airs. Et il rattrape tout sur le plateau. Tout tombe parfaitement.
Oui.
Et ben, c'est un vrai ou faux, cette scène. C'est sans aucun effet spécial. Et il y a eu besoin de 156 prises pour la faire.
Donc, tu me dis qu'il y a besoin de 156 prises et tu me demandes si c'est un vrai ou ouais, si c'est vrai ou
vrai
faux.
Ou faux. C'est une vraie, il n'y a aucun effet spécial.
Alors oui, c'est le vrai ou faux, c'est sur le côté la question de l'utilisation des effets spéciaux. Pas sûr, est-ce qu'il y a eu 156 prises ou deux, quoi. Tiens,
oui,
ok, d'accord. 156 prises
pour juste cette scène où il est dans la cafétéria et il rattrape
alors,
le déjeuner
en plus,
de Mary Jane.
Je ne me souviens pas comment c'est monté parce que il y a aussi un truc de, tu vois, si tu montes en cadrant que sur la main qui rattrape le plateau,
non,
tu peux avoir
voit,
une doubleur.
Donc non,
c'est
non,
oui, d'accord, c'est vraiment c'est si c'est est-ce que ça a été fait sans truc. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que 156 prises pour une prise, c'est extraordinairement trop par rapport à l'usage qu'on fait. Pour donner une valeur de référence, à Plus belle la vie, en tout cas avant que ce soit arrêté et repris, on faisait 3 prises. Par prise, du coup, en fait, on faisait 3 essais par prise, qui est considéré comme un flux extrêmement rapide. Parce qu'en général, sur une série qui a plus de temps pour tourner, on est plutôt sur du entre 5 et 10 prises, selon à quel point l'acteur et l'équipe a des galères, quoi. Donc 156, je pense que oui, je pense que c'est sans effets spéciaux, parce que 156, c'est il faut comprendre que tu fais en... Ça veut dire que c'est quoi ? C'est une journée de travail pour une prise, alors que d'habitude, en une journée, tu fais une ou deux séquences entières, quoi. Donc oui, je vais dire vrai.
Alors oui, tout à fait. Il n'y a eu aucun effet spécial, mais il y a quand même des petites astuces. Ça veut dire que le plateau était collé à la main de l'acteur. Déjà, le plateau sur lequel il rattrape tous les éléments. Mais en fait, tous les éléments qui sont vraiment jetés en l'air, ils ont aussi des points de colle à des endroits pour que quand ils tombent sur le plateau au moment où il essaye de le rattraper, ils ne bougent plus à ce moment-là.
Ils ont mis de la colle ?
Ouais, sur les éléments, l'assiette, le bol de lait. Là,
parce que moi, je me dis... J'y serais plutôt allée à l'aimant.
Ouais,
c'est parce
vrai.
Que la colle, c'est relou. C'est-à-dire qu'à chaque prise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vérifie que la colle est pas séchée, quoi. Et ben bravo, bah merci surtout l'équipe de Spider-Man parce que
bravo à Tobey aussi qu'on embrasse.
Oui, c'est vrai, qui nous écoute certainement comme tous les vendredis. Mais il faut se chauffer parce que vraiment, faut qu'on faire comprendre aussi aux personnes que c'est pas pour rien qu'on passe par des effets spéciaux dans ce cadre-là. C'est qu'en fait, quand tu dis qu'une prise ça va te prendre une journée, ça veut dire que tu payes tous les salaires. Pour une journée supplémentaire, et c'est ça qui coûte cher dans le cinéma, c'est vraiment les salaires. Et c'est pour ça que quand les effets spéciaux, pour ça qu'on abuse beaucoup des effets spéciaux, c'est que, en fait, si tu veux le faire sans, ça veut dire que tu as des journées où tu as une équipe de 30 à 100 personnes que tu resalarises, alors que si tu mets juste un monteur truquiste, tu payes une semaine de boulot et c'est fini, quoi. Mais ok, trop bien, trop chouette. D'ailleurs, c'est souvent le cas sur les films des années 2000, hein. D'essayer de pas trop aller vers les effets spéciaux. Donc,
Même c'est rigolo pour une scène qui est assez anecdotique au final. Ouais. Il n'est même pas en costume de Spider-Man. C'est vraiment...
Ouais, mais justement, je trouve que c'est ça qui fait la force du truc. Quoi, parce que des fois, si tu mets des VFX dans les trucs, tu préfères en mettre quand c'est une scène complètement surnaturelle ou c'est logique que ce soit surnaturel. Mais quand c'est un effet qui en soi... c'est juste quelqu'un qui a beaucoup de réflexes. On a vu des magiciens savoir tirer une ou des acrobates faire des trucs qui sont hyper extraordinaires, mais qui sont faisables sans être un sorcier, quoi. Donc, je trouve ça chouette qu'ils aient joué ce jeu-là, quoi.
Alors, quatrième question. Mm-hmm. dans Le Seigneur des Anneaux. Décidément, on reste dans des sagas assez cultes.
J'adore.
Il y a des créatures qui s'appellent les Nazgûl.
Oui.
Alors, comme toutes les créatures au cinéma, bien sûr, le cri vient pas de nulle part. Généralement, on prend des sons d'animaux, d'objets, et on les mixe pour faire un nouveau cri. Du coup, le cri des Nazgûl, à ton avis, il a été enregistré par... J'ai plusieurs propositions.
Oh, yes, trop bien.
Proposition numéro 1.
Oui.
Le frère de Peter Jackson, qui est le réalisateur, je précise.
Oui, bien sûr.
La femme de Peter Jackson. La mère de Peter Jackson.
Nièce, l'oncle ou le père.
Ou le fils de Peter Jackson.
Alors, t'as dit fils, femme et frère.
Alors, on a fils, femme, frère et mère.
Il a quel âge, Peter Jackson, quand il fait ça? Il doit avoir 30-40 ans, quelque chose comme ça.
Quarantaine.
J'ai envie. J'ai vraiment envie que ce soit son fils. Parce que j'ai envie que, du côté, tu sais, des parents qui doivent accepter que leurs enfants déchirent leur âme à chaque fois qu'ils crient toute la journée. Ouais. Et que, du coup, j'aime l'idée que si tu mets un parent dans un métier créatif, il va dire, il faut absolument que je transmette cette douleur d'entendre les cris de mon fils tout le temps et que je peux pas lui en vouloir et lui reprocher. Donc je vais dire fils.
Alors, il y a de l'idée dans ta réponse, mais la réponse est encore plus drôle. Alors, c'est ce que j'ai trouvé, hein. C'est ne trouvant aucun bruit assez effrayant pour faire le cri des Nazgûl, les bruiteurs se sont tournés vers la femme de Peter Jackson sur les conseils de celui-ci. Et cette dame s'appelle Fran Walsh. Voilà.
Que l'on salue.
Que l'on salue, décidément. Donc voilà, donc, du coup, quand Peter Jackson il s'est dit « Mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme bruit assez effrayant dans la vraie vie pour faire le cri des Nazgûl ?» Il s'est dit « Ma femme ». Ça paraissait évident.
C'est fou quand même, hein. J'ai pas très envie du coup de savoir c'est quoi leur quotidien, parce que moi je serais incapable de te dire à quoi ressemble le cri de mon mari, quoi, tu vois, je ne l'ai jamais entendu. Waouh. Et bah ok, j'ai envie d'aller regarder, après l'émission j'irai regarder le cri des Nazgûl pour me dire ok, il y a une femme là-dessous, quoi, tu vois.
Alors un petit vrai ou faux.
Ok.
Le mot Jedi, ça provient en réalité du mot Jidai, qui veut dire sérénité en japonais.
En japonais ?
Vrai ou faux ?
En japonais, parce que moi, quand t'as dit Jedi, j'ai eu l'impression que tu prononçais un mot arabe à la française.
Après, tu vois, ça ne parle pas japonais, tu vois.
Ça m'a fait penser à genoux.
Jihai.
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 Jihai. Et que ça voudrait dire sérénité ?
En japonais.
Je sais pas du tout. Est-ce que tu me mets un piège sur la langue ? Est-ce que tu me mets un piège sur le sens ? Jedi. Ouais, pourquoi pas japonais ? Allez, vas-y, je vais dire vrai.
C'est faux, c'était un petit piège de ma part. Mais ça vient bien du japonais.
Ok.
En fait, le mot Jedi, ça vient de Jidai Geki. Okay. Et le Jidai Geki, c'est un genre de série télévisuelle japonaise qui est précisément sur le Japon moyenâgeux. Il faut savoir que pour Star Wars, George Lucas, il s'est beaucoup inspiré des samouraïs. Clairement, les Jedi sont des samouraïs. Dark Vador, son design, il rappelle sous plein d'aspects... Le costume des samouraïs,
oui,
l'armure.
Oui, c'est vrai avec leur... Oui, je vois.
Donc, il y a tout à fait un côté d'inspiration japonaise qui est complètement assumé par George Lucas. Et en fait, un jour, il a entendu ce mot, Jidai Geki. Il s'est dit, ça sonne bien, j'aime bien. C'est comme ça que je vais appeler mes bonhommes dans ma saga.
Stylé.
Ouais, c'est stylé. Star Wars, c'est très stylé.
Ouais. Le militantisme, tu m'as regardé avec un regard militant. Est-ce que tu as encore des questions sur le vrai ou faux ?
J'en ai quelques-unes encore, j'en ai deux précisément. Alors, dans quel film est-ce qu'on peut voir pour la première fois au cinéma une chasse d'eau qui est tirée dans un WC ?
Ah,
j'ai
oui.
Trois propositions.
Je connais la réponse.
Ah, tu connais la
pour
réponse.
Pour le plaisir des spectateurs, je vais te laisser faire les propositions.
Allez, très bien. Il y a l'Odyssée de l'espace.
J'imagine un toilette dans l'Odyssée de l'espace.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, ceci dit ?
Psycho ? Ou E.T.
Alors, il s'agit de Psychose, dite d'Alfred Hitchcock. En français, c'est Psycho qui l'ont traduit.
C'est pour ça que j'ai hésité. Non, Psycho, c'est en anglais, du coup. Psycho et Psychose, c'est en français.
Ah, je croyais que c'était le... Ok, très bien. Ok, d'accord. Je pensais qu'on disait les deux dans la même langue. Oui, mais c'est logique. C'est vrai qu'ils ne disent pas Psychose. Je crois pas qu'ils disent... Bref, on s'en fiche. Ouais. En fait, c'est Psychose. D'ailleurs, c'est un film qui est intéressant, que je cite souvent. Parce que quand j'étais en études de cinéma, on bassinait beaucoup avec Hitchcock, que j'aime beaucoup, parce que c'est un grand fondateur, un grand pape du cinéma. Et Psychose, en fait, ce qui est une des raisons pour lesquelles on considère Hitchcock comme un des plus grands des plus grands réalisateurs, c'est qu'en fait, effectivement, il a mis beaucoup de plans qui étaient extraordinaires. Il y a beaucoup de choses dans ce film qui n'existaient pas avant. Par exemple, avant Psychose, tu rentrais dans un cinéma à n'importe quelle heure. C'est-à-dire
oui,
que
ça, on sais, ouais.
voilà
c'est et Hitchcock a imposé
et pourquoi parce qu'en fait le truc nous on s'en rend pas compte quand on regarde Psychose aujourd'hui c'est que la tête d'affiche meurt au bout de 30 minutes
spoiler
non, ça, spoiler après 60 ans je pense qu'on on peut dire qu'à prescription et c'est en fait et nous on en a pas conscience mais c'est comme si tu vendais ton film en disant viens voir mon film j'ai casté Nicole Kidman et que au bout d'une demi-heure le personnage de Nicole Kidman meurt et que tu le remplaces par une actrice qui n'est pas connue au bataillon en fait et donc c'est pour ça qu'il a imposé qu'on rentre avant la séance parce qu'il avait peur que les gens ne sachent
comprennent pas
voilà et ça correspond aussi à un moment du cinéma où en fait on oublie nous aujourd'hui mais le cinéma ça a commencé comme une attraction de fête foraine c'était l'équivalent de ce qu'aujourd'hui ce que nous on a connu sur les premiers 3D dans les années 90 ouais. où on allait voir on allait s'enfermer dans l'ancêtre du 4DX en fait et donc en fait nous on n'a plus du tout conscience que c'est extraordinaire d'arriver à l'heure de voir la tête d'affiche qui meurt effectivement c'est la première fois dans le cinéma où on voit une scène de toilette on était vraiment dans les années je crois que c'est Psychose doit sortir, je pense, en 59, il me semble. Ou alors c'est La mort aux trousses qui sort
en 59. Je crois que c'est en 60, Psychose, il me
semble. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, oui, on est encore dans une société hyper puritaine. En plus, on est aux États-Unis, donc eux, ils ont encore une couche supplémentaire de puritanisme. Et en fait, on n'avait jamais vu des toilettes. Et pareil, pourquoi est-ce que la scène de la douche, elle était aussi choquante pour les gens, c'est qu'en fait il y a ce plan où tu vois le sang qui coule entre les pieds de l'actrice et en fait il y a une ambiguïté sur est-ce que c'est sûr qu'il y a du sang du fait qu'elle vient de se faire poignarder, mais en fait est-ce que dedans il n'y a pas aussi du sang de menstruation
et il n'est pas bleu.
Il n'est pas bleu,
incroyable.
Donc on ne peut pas savoir. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça où Psychose est montré comme un truc hyper important à voir. Seulement, aujourd'hui, c'est normal que tu montres Psychose à des ados, ils vont te dire « bah oui, c'est un film normal, un peu vieillot, c'est tout quoi ». Donc ouais, très bonne anecdote, Psychose, premier plan sur des toilettes de l'histoire de l'humanité.
Alors, j'ai une dernière question. Mm-hmm. C'est un vrai ou faux aussi.
Mm-hmm. Je t'écoute.
Dans le film de George Romero, La nuit des morts vivants, sorti en 1968. Le mot zombie n'est jamais prononcé.
Je crois que... Ça m'étonnerait pas, oui. Parce que Romero, je sais qu'il est connu dans le cinéma pour être considéré comme un des fondateurs du film de zombies. C'est lui qui a placé le truc de dire on va inventer une créature... mystique qui représente les humains dans leur moment de grande consommation où en fait on perd notre humanité en se déplaçant dans des rayons où on n'a pas conscience de où est-ce qu'elle a poussé la pomme, etc. Donc il voulait critiquer la société de consommation. Donc quelque part, ça m'étonne... Je sais pas. Je sais pas si le terme de zombie serait arrivé avant dans genre par exemple des comics et que Romero a pu très bien le reprendre et du coup dire zombie dans son film. Mais d'un autre côté, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un des fondateurs de la créature mythologique en soi et que du coup, il n'ait pas pensé à nommer ce truc-là. Genre... Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est vrai qu'il n'y a pas une seule fois le mot zombie dans le film de La nuit des morts vivants de Romero. Donc je dirais, c'est vrai du coup, c'est ça, qu'il n'y est pas.
Alors oui, tout à fait, c'est vrai, il n'y a pas une seule fois le mot zombie qui est prononcé, mais pas tout à fait pour les raisons que tu as expliquées.
D'accord.
Excusez-moi, je suis un petit peu malade aujourd'hui.
On t'excuse.
Merci.
On te respecte et on te tolère.
Donc en fait, le mot zombie, c'est un mot qui est assez ancien en fait. Et il y a un premier film apparemment que je ne connais pas du tout qui s'appelle White Zombie, qui serait sorti dans les années 30.
White Zombie comme zombie blanc.
White Zombie comme zombie blanc. Donc du coup, on a une première occurrence du mot même dans le cinéma. Après, je crois que même dans la littérature, c'est encore antérieur ce mot qui revient. Mais en tout cas, dans le film La nuit des morts vivants, c'est jamais prononcé. Et puis, un autre petit fun fact, c'est jamais prononcé non plus dans la série Walking Dead.
Ah bon ?
Ils appellent jamais les zombies.
Ah ça, ça me surprend par contre.
Et d'ailleurs, pour les anglophones qui nous écoutent, parce que j'ai pas trouvé la liste en français, les zombies, ils sont appelés dans Walking Dead les Walkers, dont le titre,
marcheurs.
Ils sont appelés les Geeks, ils sont appelés les Dead Ones, les Biters, les Cold Bodies,
alors
les
attends,
Creepers.
Vas-y. Je vais le traduire mot par mot parce que ça veut dire des trucs. Dis-moi le premier.
Alors, Walkers, les marcheurs.
Les marcheurs.
Les Geeks, ce serait un peu les étranges.
Les étranges, alors c'est plus dans le sens les bêtes de foire, on dirait. C'est, en fait, freaks et geeks, en français, on le traduit par bêtes de foire.
Les dead ones, c'est ceux qui sont morts.
Les morts.
Les biters.
Les mordeurs.
Cold Bodies.
Les corps froids.
Les Creepers.
Les Creepers, sachant que corps froid d'ailleurs, Cold Bodies en anglais, c'est souvent utilisé comme un terme pour automatiquement dire cadavre. Oui. Alors que nous, un corps froid, ça peut très bien être un truc pas du tout lié à la mort. Et toi, tu disais quoi?
Creepers.
Ah, je sais pas
ça, comment. Ça, je saurais pas trop comment le traduire.
Bah, surtout qu'en français, on est en train d'adopter quelque chose qui est creepy, c'est quelque chose qui est glauque et effrayant à la fois, je pense.
Après, il y a les lurkers, ça c'est ceux qui regardent dans l'ombre, les lurkers, c'est ce qui est caché et que tu vois pas tout à fait.
Comment on dit to lurk en français, ouais, c'est rôder. Je pense que c'est des rôdeurs.
Alors, il y a monsters, les monstres, il y a les rotters, ceux qui pourrissent.
Ah oui, j'adore, alors avec l'accent français, c'est magnifique, rotters.
Rotters.
Je me suis dit, oh tiens, les gens qui rotent, mais pas du tout.
Et dans le spin-off Walking Dead, ils disent aussi les infected, les infectés. Ouais. Mais il n'y a jamais le mot zombie, et je trouve que ça relève une question intéressante, c'est du coup, notamment dans Walking Dead, est-ce que les zombies existent? Parce que pourquoi personne ne les appelle les zombies? On dirait qu'il n'y a pas de film de zombies dans l'univers de Walking Dead.
Et oui, c'est pour ça que c'est ce que je te disais sur Romero. Je trouvais ça hyper pertinent de ne pas dire zombie parce que justement, il fait une critique. Il veut que le spectateur se dise merde.
Oui, c'est un des premiers films du genre aussi, même si ce n'est pas le premier, c'est un des premiers.
Et oui, et quand bien même, il y a une ambiance dans ce film. C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être imaginons qu'il y ait une dimension où Romero se serait cassé la jambe et ne serait jamais devenu réalisateur, je ne sais pas, tu vois. Et que ce film ait été fait des années après, tu vois. Il y a une ambiance dans ce film, une direction artistique où tu comprends l'intérêt de ne pas mystifier. Dans Walking Dead, c'est plus surprenant parce qu'il est hyper moderne et donc du coup, tu t'attends à ce qu'avant qu'il y ait eu le virus, ils aient eu le même cinéma que nous. Donc je suis d'accord avec toi, c'est hyper important de se poser la question. Moi, je me demande si ce n'est pas un truc de... je pense que là, aujourd'hui, voilà, je parle de zombies dans ma vie quotidienne parce que pour moi, les zombies, c'est un des personnages de fiction. À partir du moment où il y a un virus comme un Covid muté, mettons, et que tout d'un coup, en fait, c'est ma sœur, c'est mon mari, c'est ma mère, presque le terme zombie semble offensant parce que c'est des gens que j'ai connus, c'est des gens que j'ai aimés, donc j'ai pas envie de les appeler, je sais pas, loups-garous ou vampires, des trucs qui sont un peu fictionnels et qui sont pas graves. J'ai envie de dire non, ce sont des gens qui auraient dû rester en vie et en bonne santé et qui ont été infectés, qui marchent alors qu'ils voudraient être en repos. Donc je pense qu'il y a moi je l'interprète dans Walking Dead comme une volonté des scénaristes de vouloir montrer qu'ils peuvent pas utiliser le mot zombie parce qu'ils ont de la dignité et de la mémoire pour les gens qu'ils ont perdus.
Moi honnêtement je pense que c'est plutôt pour justifier le fait que quand ils voient tout de suite des zombies, personne pense à tout de suite leur tirer un shoot dans la tête, ce qui est pourtant le premier réflexe quand tu as vu quelques films de zombies. Donc je pense que c'est pour expliquer ce genre, la sidération des personnages, du coup s'ils savent pas du tout ce que c'est un zombie.
Ouais, mais tu vois, je me dis, tu vois, par exemple, là, depuis un an ou deux, j'entends des Américains qui parlent de la drogue, du zombie, qui est en train de... Parce que les Américains ont des vrais problèmes... sanitaire en fait, hein, sur des questions de médicaments, ils ont beaucoup moins de normes que les Européens pour leurs médicaments. Il y a un délire en fait de... Je pense vraiment que moi-même en vivant dans un monde où je connais les films de zombies, et mettons qu'il y ait des vrais zombies qui apparaissent, les premiers zombies que je vois, si c'est pas des hordes de zombies qui courent, mais même sans ça, ça me paraît tellement fictionnel le zombie, que genre, il faut... c'est un effort mental à faire, à dire tout d'un coup, je vais avoir le réflexe de tirer dans la tête de quelqu'un... alors que c'est les premiers zombies que je vois dans ma vie, tu vois, même moi...
Ah, moi j'ai le réflexe, c'est bon.
T'as le réflexe.
Moi c'est bon, j'ai vu trop de films de zombies, je vais pas me faire avoir comme ça, là, 2-3 balles dans le cœur. Et...
Alors, il y a un truc qui vient de sonner, on est d'accord?
Ouais.
Je ne sais pas pourquoi ça sonne, je ne sais pas du tout comment le mettre en mute, bah, je crois qu'il s'est calmé tout seul. Bon, désolé pour les auditeurs.
C'était la femme de Peter Jackson, je crois.
Peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de nous appeler. Je vais essayer de décrocher pour voir s'il y a quelqu'un. On va faire l'expérience ensemble. Attention. Allô? Ah non, il n'y a personne. Bon, écoutez, j'avais espoir que ce soit un spectateur qui nous appelle pour nous dire « J'ai la réponse! Je sais pourquoi! »
Je sais dans Walking Dead.
Ah là, donc si la personne rappelle, j'essaierai de décrocher, mais voilà. Donc assez intéressant, ouais. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est... En même temps, je me dis, tu fais un film de zombies, tes spectateurs, ils ont... Comment dire? Tes spectateurs, même eux, ils savent qu'ils ont besoin d'avoir une montée en tension. Et que c'est pas satisfaisant pour nous d'arriver dans un film de zombies où on nous dit c'est les premiers zombies de la société qui sont en train de se révéler et tout d'un coup tout le monde a le réflexe. Ce qui est intéressant pour nous en tant que spectateurs, c'est de s'identifier à eux en se disant mais comment j'aurais réagi et tout. Donc je trouve
par une balle dans la tête.
Je trouve que par une balle dans la tête. Donc je trouve que, je sais pas, c'est un peu évident. J'ai l'impression que on pourrait, j'ai l'impression que on aurait pu intégrer le mot zombie dans Walking Dead et qu'en fait ça fonctionne très bien tout autant. Hein. Il y a pas de, ouais, il faudrait regarder s'il y a des sources là-dessus quand même. Ok, il me semble que c'était la dernière question, ouais, hein, j'ai pas rêvé ça. Ok, alors maintenant c'est à mon tour. Je vais continuer sur un quiz, parce que j'ai une frustration, figurez-vous, dans mon parcours de faire des quiz toutes les semaines, c'est que je fais des quiz qui sont trop lents, et du coup, j'arrive jamais à les placer. Donc, je vais continuer pendant plusieurs semaines sur ce quiz que je n'ai toujours pas fini. C'est un quiz qui s'appelle « Qui l'a dit ?» Un rappeur, un philosophe ou un footballeur. je vais te poser donc des questions et tu vas me dire si c'est quelle profession a fait ça. Voilà. Commençons par... Alors... Ah oui, pardon, excusez-moi. Je suis en train de galérer avec Excel. Voilà. Donc, la vie est pleine de regrets, mais ça ne paie pas de regarder en arrière. Est-ce que c'est un footballeur ? Est-ce que c'est un philosophe ? Ou est-ce que c'est un rappeur qui a dit ça ?
Je dirais plutôt rappeur.
Ah ouais ? Ouais, c'est vrai que ça sonne comme un rappeur, mais ouais. C'est un footballeur. Un footballeur, le footballeur par essence de Marseille.
Ah.
Ok, Zinedine Zidane, the one and only. Voilà, ensuite
on a... Qui nous écoute.
Qui nous écoute, qu'on salue.
Qu'on salue.
L'argent rend les choses plus faciles, bien qu'il ne rende pas plus heureux. L'argent,
je sais pas, ça sonne pas comme une phrase de philosophe.
L'argent,
je vois pas pourquoi un footballeur dirait ça non plus. Enfin, si,
tu penses ?
Oui, si, potentiellement. Parce que moi, interrogé sur son argent et on lui dit ça vous fait quoi d'être millionnaire ? Comme ça, je dirais aussi un rappeur plutôt.
C'est un footballeur.
C'est un footballeur.
Zlatan Ibrahimovic.
C'est Zlatan.
Et c'est vrai que oui, t'as raison. C'est-à-dire que les footballeurs, on est complètement obsédés par leur salaire. Ouais. On était rarement en train de demander. Combien gagnent les grands patrons et tout ça, mais par contre les footballeurs qui sont souvent nés dans des classes très très populaires, on leur reproche beaucoup de gagner de l'argent, c'est vrai.
J'avais lu que Zlatan, il achetait ses meubles à Ikea, parce
oui.
qu'il comprenait pas pourquoi acheter des meubles beaucoup plus chers alors que Ikea c'est très bien. Je crois qu'il est suédois.
Oui, mais bien sûr, c'est les Suédois, c'est leur fierté nationale de Ikea. Et d'ailleurs j'ai appris que les Allemands ont eu un délire pareil avec Aldi. Ils sont super fiers de Aldi okay. parce qu'ils ont créé une culture en mode, c'est autant le cadre d'entreprise, le cadre supérieur que l'ouvrier qui vient là-bas, parce que ça relève de la pensée allemande d'être très efficace, ne pas être dans l'excès des moments où c'est pas nécessaire et tout, genre... Donc un peu, c'est un peu comme nous et notre sécurité sociale, quoi. On considère que c'est normal que même si t'es riche, t'as pas à payer ton dentiste 140 euros, quoi. Voilà. Ensuite, la patience est arbre dont la racine est amère et le fruit doux. La patience est arbre dont la racine est amère et le fruit doux.
Oh, c'est clairement pas un footballeur.
je pense me permettre de te dire que oui, ce n'est pas un footballeur. Ça aurait pu, hein, ceci dit, mais bon.
Ça aurait pu.
C'est vrai que j'ai rarement...
Ribéry, peut-être, qui d'un match comme ça.
T'imagines? Le type sort du match, on lui dit « Alors, c'était comment le match ?» Et lui, il répond comme ça, genre « L'arbre, la patience est arbre dont la racine est amère, le fruit doux. » Je crois qu'il y a Ribéry qui fait un AVC.
Du coup, j'ai envie de dire rappeur.
Tout à fait. Ouais. C'est encore un rappeur d'ici, c'est IAM. Alors, je ne sais pas du tout lequel des trois c'est, mais... Ou des quatre, d'ailleurs. Non, ils sont trois, ils sont quatre, IAM. Je crois qu'ils sont trois. Et donc, oui, c'est probablement tiré d'une des chansons d'IAM. Ensuite, on a les belles paroles n'engagent pas seulement celles qui les reçoivent. Les belles paroles n'engagent pas seulement celles qui les reçoivent. Les belles paroles n'engagent pas celles qui les reçoivent.
Est-ce que ce serait pas un philosophe ?
Oh là là.
Un philosophe qui aurait dit ça ?
Non, moi, c'est pas un philosophe, Morgan.
C'est pas un philosophe.
C'est un rappeur.
C'est un rappeur.
C'est Grinch.
Ah !
C'est rigolo parce que Gringe, je le connais beaucoup plus en tant que comédien.
On dit
que...
pas Gringe ?
Gringe, oui, c'est vrai. C'est un mot, Gringe, en anglais, je crois, non ? Non, c'est cringe, pardon.
Cringe,
qui veut dire un peu dérangeant, kind of. Ok, c'est Gringe qui a dit ça, pardon. Ensuite, je vis entre rêve et réalité. Je vis entre rêve et réalité. qui est-ce qui vit entre rêve et réalité? Est-ce que ce sont des footballeurs? Est-ce que ce sont des rappeurs? Est-ce que ce sont des philosophes qui vivent?
Footballeurs vivent certainement entre rêve et réalité, pour
tout
le
à
coup,
fait. C'est un footballeur qui a dit ça, un footballeur français, Antoine Griezmann, ouais, qui a dit qu'il vivait entre le rêve et la réalité.
J'ai un fun fact sur Antoine Griezmann.
Ah, vas-y.
Ok, il est assez connu, hein, mais il a 3 enfants, ils sont tous nés le même jour.
Mais non.
Si, pas la même année, bien sûr, mais ils sont tous nés le même jour. C'est assez drôle, ça.
Tu crois que, genre, lui et sa femme, ils ont décidé qu'ils voulaient avoir, je sais pas, que des scorpions ou que des capricornes?
Il y a un calendrier très strict dans l'histoire, un planning, et voilà, quoi.
Peut-être que c'est la seule femme, genre qu'elle a une anomalie, que c'est la seule femme du monde qui a des périodes de reproduction, tu sais, qui peut se reproduire qu'en mars.
En fait, je pense que ça s'explique parce qu'avec son planning, j'imagine qu'il doit avoir toujours un peu, entre guillemets, les mêmes temps de repos, où il peut passer du temps vraiment avec sa famille. Mm-hmm. Mais après, quand même, au jour près, c'est quand même fort. Je veux dire,
c'est très,
ça pourrait être à quelques jours, une semaine d'écart, au jour près, les trois. Ouais, c'est quand même...
Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Bah, je pense à une amie qu'on a en commun. et qui, en fait, elle et son frère et sa sœur sont tous nés à une semaine d'intervalle sur octobre-novembre. Et du coup, je me dis, bon, bah, peut-être qu'en fait, il y avait un espèce de rythme romantique dans la vie de leurs parents qui peut-être se passait au ski, tu vois.
Moi, j'ai une de mes tantes, ses enfants, ils sont tous nés le 26. Pas du même mois, mais le 26. Non. Et elle est née le 26 aussi.
Incroyable.
Ouais,
c'est rigolo, hein. J'ai un pote aussi, qu'on connaît très bien dans cette radio, qui s'appelle Dario Della Noche, qui fait du rap, et qui a rencontré, il y a un an ou deux, un copain, tu vois, par hasard. Et puis, dans une conversation, ils ont parlé de leur date de naissance. Et en fait, ils sont nés à 45 minutes d'intervalle. Ah, le même jour, la même année, ça, mais pas dans le même hôpital. On était un peu déçus. Ouais. Ensuite, on a le succès ne se limite pas, il se crée. Le succès ne s'imite pas, pardon, excusez-moi.
Oh, je comprenais pas la...
J'ai ma dyslexie qui vient fausser les jeux, pardon. Le succès ne s'imite pas, il se crée. Mais d'ailleurs, je même la phrase en soi, je la comprends pas trop, quoi. Comment tu veux imiter du sif?
Un rappeur, je dirais ça, c'est une phrase de rappeur, ça.
C'est un footballeur que je ne connais pas, qui s'appelle Luis Fernandez. Donc, je suis vraiment désolée pour tous les auditeurs marseillais qui sont férus de foot et qui se disent « Mais comment ça, tu ne connais pas Luis Fernandez ?» Fernandez.
Le téléphone va se mettre à sonner.
Oui, c'est ça. ensuite, qui peut me prouver que la mort est un repos? Qui peut me prouver que la mort est un repos?
Ça doit être un philosophe. Hein.
C'est un rappeur, Maître Gims. Et je suis d'accord que moi, j'aimerais bien avoir un bac de philo. Qui peut me prouver que la mort est un repos? Je trouve que c'est une question philosophique hyper stylée. Ensuite, on va partir sur... Là où il n'y a le choix qu'entre lâcheté et violence, je conseillerais la violence. C'est très joli. J'ai très envie d'avoir une émission entière sur ce débat-là.
J'adorerais que ce soit un footballeur qui dit ça. Je trouve ça excellent, vraiment.
C'est un philosophe. C'est un philosophe. Un philosophe. C'est considéré comme un philosophe. Je pense que nous, on le voit plus comme un guide spirituel et politique. C'est Gandhi qui a dit ça.
Ok, ouais.
C'est intéressant, d'ailleurs. Mmh. Et Gandhi, d'ailleurs, c'est un truc... quand on était petit, on nous le présentait beaucoup comme la figure pacifique et le meilleur être humain de la planète. Et en fait, il y a des trucs qui sortent un peu sur lui, qui est un peu des histoires un peu bizarres, des trucs un peu en mode j'ai dormi avec une petite fille pour montrer que je ne me laisse pas tenter, des trucs un peu bizarres comme ça, tu vois. Genre, donc j'apprends des trucs un peu bizarres sur Gandhi. Donc bon, affaire à suivre. La menace ne sert d'arme qu'aux menacés. La menace ne sert d'arme qu'aux menacés.
Je vois pas pourquoi un footballeur dirait ça. J'ai du mal à voir un philosophe dire ça aussi, du coup je dirais un rappeur.
C'est un philosophe qui d'ailleurs aussi est connu plutôt pour être quelqu'un, le mec par excellence qui a tout fait. Qui dans la vie a tout fait? Genre le gars, le génie par excellence multidisciplinaire.
Donald Glover.
Qui est en train de sortir une série Mrs. et Mrs. Smith, ouais. qui sur lequel je suis un peu mitigée, mais qui joue bien dedans.
Je suis désolée, il fait tout.
Il fait tout. Non, c'est vrai qu'il fait tout.
Il est acteur, il est humoriste, il est musicien.
Beau gosse. Ultime. Non, c'est Léonard de Vinci.
Ah, mince, presque.
ok, dernière proposition. On parle toujours mal quand on n'a rien à dire. Est-ce que c'est un footeux? Est-ce que c'est un rappeux? ou est-ce que c'est un filoleux? Ça marche pas très bien, filoleux. Un philosophe, un rappeur, un footballeur.
Tu peux la répéter?
Bien sûr. Répétez la question. On parle toujours mal quand on n'a rien à dire.
On parle toujours mal quand on n'a rien à dire. Ça pourrait sonner comme une
punchline. Ça fait très rappeur.
Ouais. Je pense que c'est pas un rappeur, je sais pas pourquoi. C'est philosophe?
Oui, c'est un philosophe, c'est Voltaire qui a dit ça.
Ok.
On va partir pour finir cette émission sur notre dernière petite quiz, temps d'émission, je ne sais pas, chronique. Ce sont les œuvres qui. Donc je vais te poser, Morgane, des questions. Quelles sont les œuvres, quelle est l'œuvre qui, je ne sais pas, t'a fait adorer le cinéma, des choses comme ça. Et donc tu vas me répondre. Donc la première, c'est je veux savoir, Morgane, quelle est l'œuvre qui t'a fait aimer la littérature ?
Je pense comme beaucoup de personnes de mon âge, c'est Harry Potter. Harry Potter qui a fait aimer la lecture à tant d'enfants.
J'aime bien parce que ça fait partie des quêtes annexes en tant qu'animatrice de cette émission, de caler Dario De La Noce et Harry Potter dans toutes les émissions possibles. Pour une fois, c'est pas mal, c'est toi qui l'as bien, donc merci beaucoup.
On pourrait faire un bingo la prochaine fois, on met Star Wars dedans aussi. Et voilà. Ouais, Harry Potter, en fait, pour la petite histoire, il y avait la fête du livre de l'école. Alors, ceux qui avaient ça, peut-être dans leur école primaire, nous, on avait des éditeurs, des libraires qui venaient, qui installaient leur stand et c'était sur une journée.
C'est vrai, puisque Morgane et moi avons été dans le même primaire, collège, même lycée d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. On s'est suivis à un an d'écart. Parce que je sais que c'est pas dans toutes les écoles primaires. Moi, j'ai pu en discuter avec d'autres gens. J'étais là, la fête du livre, ça me paraissait évident que c'était dans toutes les écoles. En fait, non.
Okay.
Et du coup, on pouvait venir avec nos parents, on faisait un tour avec les maîtresses et puis c'était l'occasion d'acheter des livres et de sensibiliser les enfants à la lecture. Et en fait, il y avait ce livre qui venait de sortir, dont tout le monde parlait, qui s'appelait Harry Potter. Et apparemment, qui était un succès incroyable en Angleterre. Et du coup, ma mère l'avait acheté. Puis moi, je ne voulais pas du tout le lire. Ça m'emmerdait.
Tu devais être super jeune.
J'étais en CE1.
Non, mais même, c'est bizarre, hein, parce que, comment dire, le premier film sort en 2001.
Ouais.
Donc moi, en 2001, j'ai 6-7 ans, mais je suis de fin d'année.
Moi, ce que je me rappelle, c'est que les trois premiers tomes étaient sortis. Et du coup, après, j'ai dû attendre à partir de là, chaque tome, quoi. J'étais en CPC, un truc comme ça.
En fait, tu t'as découvert Harry Potter vraiment un an ou deux avant la sortie du premier film, quoi.
Oui, moi, j'étais super hypée pour le film. J'étais déjà super fan. Mon cadeau d'anniversaire, quelques années après, du coup, c'était le tome 4 de Harry Potter. Enfin, vraiment, j'étais fan. Ouais. Et en fait, ma mère l'avait acheté, m'a dit, écoute, si tu veux pas le lire, c'est pas grave, moi, je le lirai. Et puis, en fait, tous les jours, elle s'amusait à le mettre dans ma chambre.
Okay.
Et moi, tous les jours, je m'amusais à le prendre et à le remettre dans le salon, puisqu'elle avait dit qu'elle allait le lire elle et que moi, j'avais manifesté que je ne le lirais pas. Et puis, un jour, j'ai craqué et puis je suis allée voir mes parents presque au milieu de la nuit. Je venais de finir le tome 1. J'ai dit, c'est super, il faut à tout prix qu'on achète la suite. J'ai besoin de savoir la suite. Et voilà. Et à partir de là, je me suis mis à lire.
C'est fou parce que, les gens ne le savent pas, mais toi, tu es très, 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 très dans la littérature. Tu as fait des études de DUT du livre, c'est vraiment ta passion première, quoi. Ok, je veux savoir, donc même question, pour le cinéma, quelle œuvre t'a fait aimer le cinéma ? Puisque c'est partie de tes hobbies quand même aussi.
Je pense que c'est possiblement deux films, et j'ai vérifié, ils sont sortis la même année. Donc je me dis, je pense que peut-être cette année-là, j'ai eu un éveil au cinéma. L'année en l'occurrence, c'est 2006.
Ok.
Et
donc on est en plein dans nos années collège.
Ouais, tout à fait. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à aller un peu au cinéma par moi-même, voir des films pour moi, et pas juste amener au cinéma par mes parents, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Et c'est Little Miss Sunshine / Le Labyrinthe de Pan.
Et oui.
Quand je réfléchissais vraiment un peu, je sais pas, à mes premières claques en fait de cinéma, entre guillemets un peu d'auteur, des trucs qui sortaient du genre, parce que j'avais déjà vu du cinéma. Et ça, c'est vraiment là où je me suis dit, ah, tiens. C'est rigolo, les histoires qu'on peut raconter au cinéma.
C'est vrai que c'est deux univers complètement différents. C'était des films importants quand on était ados, c'est vrai. Hein, ils nous avaient marqués, ces deux-là.
Ouais.
Et puis, il y avait un truc où c'était une époque différente du cinéma. C'était tellement plus nouveau, en fait. C'était nouveau à l'époque, quoi.
Et puis, je pense que ça se conjugue avec le fait que, comme on vient d'Aix toutes les deux, Aix-en-Provence, il y a trois cinémas, deux d'art et d'essai, grosso modo, et un plus tout public. Et en fait, c'était les premières fois aussi où j'allais à ces cinémas d'art et d'essai. Little Miss Sunshine, Labyrinthe de Pan, je les ai vus au Mazarin, il me semble, ou au Noir, je sais
en plus. En plus, fun fact, j'ai appris en traînant dans les jupes du festival de cinéma tout court à Aix-en-Provence, que les Aixois sont les Français qui vont le plus au cinéma proportionnellement à la densité de leur ville. C'est-à-dire qu'il y a plus souvent, les Expos vont plus souvent au cinéma que les Parisiens, en proportionnellement à la ville. Et je pense que c'est dû au fait que quand on était petite, en tout cas, il y a eu une période où je crois que c'était le même propriétaire des trois cinémas Ex, donc ça a pu leur permettre de faire une carte de réduction pour toute la, tous les cinémas de la ville, parce qu'on en avait peu. Mais par contre, ils en avaient des réductions. Donc forcément, nous, ados, tout le monde avait sa carte de cinéma, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. L'œuvre qui est la plus drôle pour toi ?
Je pense que c'est la série Modern Family.
Ah.
Ouais, je pense que c'est là où je me tape les plus grosses barres. Après, peut-être Malcolm aussi, qui me fait beaucoup rire aussi en termes de série. Mais Modern Family, je crois que j'ai pleuré des fois devant certains épisodes de rire, parce que c'est vraiment très, très drôle.
Moi, je pense que c'est rigolo parce que je pense aussi à une série. J'aurais dit The Office US, évidemment, qui est exceptionnelle là-dessus. Quoi. L'œuvre qui te fait pleurer à chaque fois, évidemment.
Bah, ça, c'est sûr que c'est À la croisée des mondes, dernier tome. Ouais, je pleure. Mais alors, c'est terrible parce qu'en plus, je pleure avant cet événement qui est triste parce que je sais que ça va arriver. Et du coup, ça me met dans tous mes états. Je pleure d'anticipation, je pleure pendant que ça se passe et je pleure après. C'est terrible, je me mets dans des états incroyables.
Big up à la personne qui vit avec toi et qui doit ramasser la petite cuillère tous les 6 mois. Je vois trop ton partenaire.
Oui, surtout que je le relis régulièrement et puis il me dit « Mais pourquoi tu te fais ça ?»
Parce que... de se mettre en condition à chaque fois. L'œuvre qui t'a surprise, alors je pensais plus un peu dans le truc de, tu sais, des fois tu regardes, je sais pas, un film ou un livre et tu te dis, je m'attends à voir une histoire d'action et tout, et en fait t'es en mode, mais j'aurais jamais envisagé que c'était hyper dramatique ou quoi, tu vois, donc un truc vraiment qui t'a surprise, où tu t'attendais pas à vivre cette émotion, quoi.
On parlait du bingo de Letty et Morgan tout à l'heure, moi je rajoute DOA dedans, et du coup... DOA, on a parlé la dernière fois, c'est une série extraordinaire, et franchement, je sais pas comment décrire, mais je dirais que ça m'a touchée à des endroits, je savais pas que ça existait en moi. Okay. Voilà, vraiment, ça...
C'est vrai qu'elle est hyper singulière, cette série, on s'attend à voir un truc, genre, c'est vrai que quand tu commences à regarder des DOA, tu te dis, ok, bah, ça va être, j'espère,
un thriller ou un truc policier ou d'enquête, un peu mystérieux, un peu, et en fait, il y a une spiritualité aussi dedans... Ouais. Une sensibilité.
Et puis je trouve quand tu... C'est vrai que c'est juste que tu parles de spiritualité, c'est que c'est vraiment un truc où le médium du cinéma essaye de faire de la spiritualité. C'est pas genre le cinéma qui te montre un personnage qui est spirituel, c'est le montage en soi et la façon dont c'est filmé qui amène aussi cette spiritualité-là. Qu'est-ce l'œuvre qui te réconforte dans toute situation ?
Moi j'aime bien appeler ça les séries doudou.
Oui.
C'est des séries où on revient toujours. En l'occurrence, moi c'est des séries télé. Et je suis vraiment pas originale sur ça, mais moi c'est Friends, hein. C'est Friends, et en plus moi Friends j'ai découvert très tard, j'ai découvert à la vingtaine, j'avais jamais regardé quand c'était sorti.
Incroyable.
Ça me faisait pas rire du tout, je sais pas, je trouvais ça nul.
En fait je pense que t'avais besoin d'être confrontée au passage à adulte pour comprendre, en fait.
Non, je pense surtout que j'avais besoin de les voir bien dans l'ordre, tu vois, parce que c'est pas une série mineure qu'on peut regarder un épisode comme ça de temps en temps, comme par exemple Malcolm, même si ça vaut le coup aussi de voir cette série de A à Z dans l'ordre. Je pense que c'est des séries qu'on peut regarder un épisode comme ça de temps en temps. Et Friends, pour vraiment l'apprécier, je pense qu'il faut le voir dans l'ordre. Et...
Oui, c'est vrai que pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui ne se rendent peut-être pas compte, mais nous, les trentenaires, jusqu'à nos quasiment majorités, on allumait la télé et on attendait que la télé veuille bien nous donner. Du coup, il y avait des bails où en fait, on regardait en général. T'allumais ta télé, tu savais qu'à 18h, il y allait avoir ton programme. Et tu savais que le premier ou le deuxième épisode allait être inédit et qu'ensuite, pendant 4 heures, tu allais revoir des épisodes dans le désordre de la première saison à la sixième. Quoi. Ensuite, l'œuvre que tu consommais le plus en tant qu'enfant ?
Mais je pense que c'était le dessin animé La Cour de Récré. Pour ceux qui voient ce que c'est, je pense que c'était ça que je regardais le plus. Bon, après, je regardais beaucoup la télé, les dessins animés... les films Disney, mais je pense que c'est ce dessin animé qui m'a marqué.
Très très cool, très très cool. Ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'irais bien me regarder, revoir.
On se les revu parce qu'ils sont sur Disney+ avec mon copain, et franchement, on se régale. C'est génial, ça a très bien vieilli, je trouve.
Moi, j'avais eu un petit trip il y a quelques années, je m'étais rematé des épisodes de Hey Arnold en retour de soirée, c'était magnifique. Vraiment, j'avais adoré. D'ailleurs, c'est les Teletubbies qui ont été... Je crois qu'il y a une rumeur qui dit que les créateurs des Teletubbies, c'est des gens qui faisaient la fête tout le temps, et qui en avait marre de rentrer le matin dans les années 80 où il n'y a que la télé, d'allumer la télé, de tomber sur des trucs hyper énergiques pour enfants. Et du coup, ils ont créé les Teletubbies pour pouvoir avoir un produit qui soit à la fois visible par des enfants le matin et à la fois qui soit visible par des gens qui reviennent de soirée complètement sous. Voilà. Alors, je vais te mettre en situation. Disons que je suis maman et que mon ado n'aime pas lire, quel livre pourrait lui faire aimer la lecture, à ton avis?
Alors, déjà, je pense que aimer la lecture, c'est vaste. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sous-littérature. Donc, lire que des BD, que du manga, ou des paquets de céréales, ça reste de la lecture.
Oui.
Donc, le but, c'est de faire aimer la lecture, peu importe la forme. Et après, bah, idéalement, on se dirige vers d'autres genres, ou pas, même, d'ailleurs. Mais du coup, si on parle vraiment de littérature, de livres, de romans, ce genre de choses, je dirais, La Quête des Willan, ça peut être pas mal pour un adolescent.
Je connais pas du tout.
C'est un auteur, en plus, local, qui est décédé, malheureusement, tragiquement, dans la force de l'âge. J'étais au lycée, je crois, donc
ah ouais.
Une quinzaine d'années. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Il s'appelle Pierre Bottero. Il venait de Salon de Provence.
Ok.
Et en fait, il a écrit, alors je crois qu'il y a deux trilogies, La Quête des Willan, Les Mondes des Willan. Et après, il a écrit des spin-offs sur les personnages secondaires.
C'est un peuple, les Willan, ou c'est une famille?
Les Willan, c'est une personne, c'est une jeune fille. En fait, elle est dans notre monde et en fait, elle découvre qu'elle a un pouvoir qui s'appelle le dessin. Et en fait, elle utilise l'imagination, mais avec un I majuscule, qui est en fait, en gros, ce qu'elle imagine, ça se matérialise dans la vie. Donc, s'il suffit qu'elle se concentre, qu'elle imagine quelque chose, qu'elle le dessine en fait dans sa tête. Mmh. Et en fait, la chose Génial. Apparaît dans le monde réel. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le pas sur le côté.
Okay.
Et en fait, ça permet de changer d'univers. Et en fait, elle arrive dans l'univers de Gwendalavir, il me semble que ça s'appelle.
Et donc, le personnage s'appelle Ewilan. Donc, voilà. C'est D' le Ewilan. OK.
Ouais.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'accord, oui, très bien. Bah,
c'est simple, le style est très simple et l'histoire est chouette.
Et l'histoire se passe en Provence aussi, ou pas du tout?
Non, pas du tout. L'histoire, je crois que ça débute à Paris même. Et, okay. Et en fait, le personnage principal trouve donc ce moyen d'accéder à ce monde parallèle, d'où en fait elle vient. Et donc c'est pour ça qu'elle a ce pouvoir-là.
Très stylé. Ben,
c'est très chouette.
Je ne suis pas une ado, mais j'ai envie de le lire.
Je termine sur Pierre Bottero, mais c'était un enseignant. Moi, j'ai eu une copine qui venait de Salon de Provence, qui l'a eu en tant qu'enseignant, en tant que professeur.
Yes.
Et donc, du coup, il y avait vraiment une volonté de sa part que ce soit accessible, justement, pour le jeune public. Lui, quand il l'écrit, okay. Il a vraiment en tête ses élèves et le fait d'aimer la lecture aux ados.
Tu sais de quelle matière il était prof?
Il était prof en primaire.
Ah, un stit, ouais, trop bien, ouais. Trop chouette. Ouais. Ben, j'irai regarder, ça me paraît pas mal. Si tu pouvais emprunter la caractéristique magique d'un personnage, quelle serait-elle?
Eh ben, c'est évident pour moi, c'est le pouvoir de Piper, mon Charmed. Évidemment, j'ai réfléchi très longtemps à cette question, c'est le meilleur pouvoir. Je pense.
Alors attends, parce que le pouvoir de Piper, il se met en deux temps. La première,
ah oui, pardon.
Il se fige.
Celui d'arrêter le temps, pas celui d'exploser les trucs, qui est un peu moins utile au quotidien.
Ouais.
Celui d'arrêter le temps, je trouve ça quand même plutôt pas mal.
Ah, c'est intéressant parce que j'ai fait exprès de poser la question en mode il faut que t'empruntes un personnage de fiction déjà réel. Parce que quand tu demandes aux gens juste quel super pouvoir t'aimerais, ils te disent tous j'ai envie de voler.
Ouais.
Et je suis là en mode mais j'ai envie d'autres questions. Donc merci d'avoir respecté ma question. Ensuite, si tu étais un personnage de fiction, tu serais qui?
Mais franchement, je sais pas trop.
Je sais pas.
Je sais pas du tout qui je serais. Des personnages de fiction. Il y a des univers dans lesquels j'aimerais vivre. Mmh. Ça, c'est sûr.
Genre?
Bah, Star Wars. Hein.
Ouais.
Star Wars, c'est quand même le feu. Hein. Pouvoir voyager de planète en planète. Je sais pas. Plein d'extraterrestres.
Moi, je pense que.
La galaxie.
Sur les personnages, je vois bien un mix entre. Comment elle s'appelle? Je crois que ça s'appelle Max dans Two Broke Girls.
Ouais,
tu vois, cette énergie hyper comique et tout, de meuf qui fait son bonhomme de chemin et voilà. Et Kaiser Soze. Vraiment le love child de Max et de Kaiser Soze, je pense que ce serait toi, quoi, tu vois. Genre, Ok, si tu pouvais vivre dans un univers fictionnel, ah bah voilà, c'est Star Wars, évidemment. Tu
Bien
serais
sûr.
Quoi d'ailleurs? Tu serais un maître Sith ou un Jedi ou un villageois?
Moi je serais une rebelle, moi. Ouais. Je serais une nobody qui se bat contre l'Empire avec ce qu'il y a. Genre comme dans Rogue One, ce genre de gens, quoi. C'est les plus stylés quand même. Il n'y a pas la force là pour sauver la journée, là. Franchement.
Il n'y a pas la force pour sauver la journée. J'aime trop quand même hein, que quelqu'un qui veuille vivre dans l'univers Star Wars dise « Non mais moi je veux pas avoir la force parce que c'est trop éclaté, c'est trop facile sinon. » Ensuite, dernière question de l'émission. Je ne connais rien du tout au manga, au minwa qui est la version coréenne des mangas, et du coup à leur version filmée, les animés. Par quelle œuvre je devrais commencer ce genre, à ton avis?
Alors, les mangas... Je dirais que ça peut se partager en trois genres Après, c'est vraiment résumé ça de manière un peu bête et méchante. C'est, ça a quand même plus de subtilité. En fait, souvent, les mangas, les gens pensent à Dragon Ball, ce genre de truc. Ouais. Et moi, j'aime bien dire, mais c'est comme limiter la BD à Titeuf. C'est oui. absurde. Il y a plein de choses en bande dessinée et il y a plein de choses aussi en manga. Du coup, pour donner un ordre d'idée aux gens qui ne connaissent pas du tout le manga, il y a donc trois genres, comme j'ai dit. Il y a le shonen, ça veut dire littéralement garçon et adolescent. Donc, c'est le public okay. qui est visé par les shonen. C'est souvent des histoires qui tournent autour de protagonistes qui valorisent des valeurs universelles comme le dépassement de soi, le goût de l'effort, l'esprit de groupe, l'amitié, c'est très important. Il y a un peu cette image de quête du héros. Mmh. Voilà, il débute et puis il faut qu'il s'entraîne, puis il devient de plus en plus fort et puis il va sauver le monde.
Je suppose que la majorité des shonen...
Ouais, coup, Dragon les... Ball, tout ça, c'est du shonen.
Mais ce que je veux dire, c'est que la majorité des personnages de shonen sont évidemment des garçons.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, on a le shoujo qui s'oppose un peu au shonen. Donc ça veut dire littéralement jeune fille. Donc okay. du coup, c'est des mangas qui s'adressent plutôt à un public de jeune fille. Même si c'est pas que, hein, on dit que ça s'appelle jeune garçon, jeune fille. Moi, j'aime pas du tout le shoujo, par exemple, et j'ai mmh. toujours aimé le shonen. Et je pense qu'il y a énormément de garçons qui lisent du shoujo parce qu'ils aiment bien lire des histoires romantiques. Oui. Donc justement, le shoujo...
Oui, le problème, c'est plutôt qu'en fait, on a du mal à faire des mangas romantiques avec des garçons... Et des mangas d'aventure avec des filles en personnage principal, c'est plutôt ça en fait. Hein,
ouais,
et
puis le Japon, c'est assez strict sur les représentations de genre. Du coup, le shoujo, ça représente plutôt des femmes et c'est plutôt des histoires qui tournent autour de la romance.
Okay.
Et le dernier genre, c'est le seinen. Et ça, en fait, c'est un peu la finalité, on va dire, du shonen. Ça reprend ses grands codes. En fait, c'est plus tragique, plus mature, plus gore. Ça s'adresse à un public clairement d'adultes. Ouais. Et donc les thèmes sont beaucoup plus durs et plus crus. Du coup, parmi tous ces genres-là, si je devais sélectionner quelques œuvres pour faire une porte d'entrée des gens qui ne connaissent pas du tout, je dirais Quartier lointain.
Okay.
C'est un manga de Taniguchi. Et en fait, c'est quelque chose qui est plutôt contemplatif. En gros, l'histoire, pour résumer très rapidement, c'est un salaryman, donc un employé japonais typique, il prend le train, il va à un rendez-vous professionnel, il rate son train, il rate son arrêt plutôt, et il s'arrête dans sa ville de naissance, où il va, et puis d'un coup, il se passe un phénomène surnaturel, et en fait, il remonte le temps. Et il a 14 ans à nouveau, dans le monde de ses 14 ans. Et en fait, il y a un mystère dans le bouquin, il en parle avant. En fait, son père, un jour, est parti, du jour au lendemain, son père, un jour, a pris un train, est parti abandonner sa femme, ses enfants, et il ne sait pas pourquoi, il n'a jamais retrouvé son père. Et il se trouve qu'il remonte le temps, et c'est 6-7 mois avant que son père disparaisse. Et donc, du coup, en même temps, il y a tout ce truc où lui, il se dit « c'est l'occasion de refaire ma vie, entre guillemets, de réussir les choses que j'ai ratées. » Par exemple, maintenant, il est bon en anglais, parce que quand il était jeune, il ne parlait pas anglais. Oui. Maintenant, dans son travail, il parle anglais, donc du coup, il est super bon en anglais.
Ça doit être super dur d'avoir un cerveau de trentenaire dans un...
Oui, ça, il en parle aussi, notamment. Et puis du coup, il y a lui, il se dit « je vais empêcher mon père de partir ou savoir pourquoi, en tout cas, il part, quoi. »
Ouais, alors ça déjà, et puis même, moi ça me fascine cette question-là de comment on réagirait en étant en tant qu'ado, j'imagine, même sur le plan amoureux, quoi. Moi par exemple, j'ai 30 ans, ça me viendrait jamais à l'esprit d'aller déranger des partenaires de moins de 25 ans qui sont en train de se construire. Donc tu me mets dans mon corps de 14 ans, ça veut dire que pendant potentiellement 11 ans, je n'ai pas de vie amoureuse, quoi. C'est bref. Donc comment il s'appelle celui-là ?
Quartier lointain.
Et ça c'est un
one shot, donc c'est pas un manga trop fleuve. Il y a pas une vingtaine de tomes. Je crois qu'il y a des intégrales en un seul gros tome.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait là, pour les auditeurs qui n'ont pas capté, Morgane a fait le truc de vraiment vous préparer non pas les trois œuvres les plus iconiques du manga, mais plutôt des portes d'entrée qui sont intéressantes. Donc en voilà une.
Donc la seconde, ça s'appelle Monster. C'est écrit par Naoki Urasawa. Et pour l'anecdote, c'est le manga avec lequel j'ai fait découvrir l'univers de manga à ma propre mère, qui donc aimait pas du tout le genre de manga, qui avait des clichés de genre.
Bravo.
Voilà. Déjà. Et puis moi, je lui avais dit, mais écoute, il y a des super trucs, et notamment Monster, c'est un manga en fait de suspense, c'est un thriller psychologique.
Ok.
Et donc le résumé un peu, ça suit l'histoire du brillant neurochirurgien Kenzo Tenma, qui se retrouve confronté à une série d'événements mystérieux après avoir sauvé la vie d'un jeune garçon. En fait, il a un espèce de choix à un moment, soit il faut qu'il sauve un jeune garçon ou un homme politique très influent. C'est un neurochirurgien, ils arrivent à l'hôpital et voilà, il doit s'occuper de l'un ou de l'autre. Et puis lui, décide de sauver le jeune garçon. Et peu de temps après cette décision, il y a des meurtres étranges qui commencent à se produire. Et le chirurgien découvre que l'enfant qu'il a sauvé, eh ben, il est peut-être au centre de tous ces événements macabres.
Yes, et
c'est
philo
une histoire
aussi, hein.
Super qui a été primée, vraiment qui a eu plein de récompenses. Ça parle de morale, de responsabilité, de la nature humaine. Ça prend un peu le thème de si tu pouvais remonter le temps et tuer Hitler enfant, est-ce que tu le ferais, tu ouais. vois, sachant ce qu'il va faire après, etc. etc.
Tout à fait.
Donc super intéressant. Et pareil, c'est pas trop long, je crois qu'il y a moins d'une vingtaine de tomes, quelque chose comme
c'est
ça.
C'est rigolo parce qu'en médecine, cette question, elle est réglée déjà. Ils ont ouais. un délire où en fait c'est, on priorise les enfants sur oui. les vieux toujours et en plus de ça et, sauf si vraiment on a un délire de en fait c'est, la greffe va on sait quasiment qu'elle va pas du tout prendre sur l'enfant alors qu'elle a des chances de beaucoup prendre sur l'adulte.
Après là donc c'est dans mes souvenirs, je l'ai lu il y a très longtemps, mais il me semble que l'homme politique en question c'est genre le président quoi, tu vois, c'est ouais, vraiment ouais. pas n'importe qui
oui, c'est pas un sous-secrétaire ouais, voilà. Que personne ne connaît. Exactement. Et donc là comment tu dis que ça s'appelle celui-là?
Celui-là s'appelle Monster.
Donc
Monster.
On a fait Quartier lointain, Monsters.
Et bon, pour un dernier, j'hésitais honnêtement, il y avait plein de noms qui me venaient en tête, Death Note, L'Attaque des Titans, etc. Mmh. Mais les Japonais, ils aiment bien un truc qui est le manga de sport, un peu, les mangas ou c'est les vrai. Mangas de cuisine ou les choses comme ça, où on va prendre un truc assez anecdotique, un sport comme ça, et puis le gars va devenir super fort.
Petite donc, pensée pour tous les gens qui se sont farcis, Jeanne et voilà, Serge.
Exactement, même Captain Tsubasa, le Olivier Tom, truc de football, etc.
Tout à fait, Olivier Tom.
Donc il y en a plein, il y a des avec trucs des... de cuisine, il y a vraiment tout, il y a tous les sports, tout.
Avec,
tout.
Comment ça s'appelle, Olivier Tom? Avec des terrains de foot qui sont
immenses, infinis, interminables. Et donc okay. le dernier manga s'appelle Hikaru no Go, et donc il parle du jeu de Go. Donc oh. c'est typiquement ce genre de récit où on a un héros qui découvre un jeu, un sport, donc comme j'ai dit, donc là en l'occurrence le jeu de Go. Et en fait il est possédé par le fantôme d'un ancien joueur de Go de il y a 300 ans, parce que le jeu de Go c'est un des plus anciens jeux de stratégie au monde. Et en fait un jour il touche un vieux plateau de Go chez son grand-père, et puis il y a ce fantôme qui se manifeste, et en fait il le possède, et du coup il est super fort au Go, parce qu'en fait juste il écoute le fantôme en fait, hein, le fantôme est matérialisé à côté de lui, il lui dit joue ça, et du coup lui il trouve ça cool d'aller dans des clubs et de battre tout le monde, sauf que faut comprendre c'est comme si le mec d'un coup il avait le niveau du meilleur joueur du monde.
Bah oui, bien sûr.
Vraiment, donc ça, c'est le genre de jeu, ça met des années à apprendre. Il y a des professionnels de Go, enfin, et voilà, donc ça fait découvrir non seulement l'univers des professionnels de Go au Japon, et puis il y a tout ce truc. Moi, je l'ai lu, j'ai adoré, alors que je connaissais pas du tout le jeu de Go, et je me suis pris vraiment au jeu de ces jeunes qui apprennent le Go, parce qu'après, lui, il veut apprendre le Go pour lui, en fait. Ça l'intéresse, le jeu, et du coup, il veut jouer lui.
Ah oui, forcément, à force, son cerveau, il peut ouais. pas s'empêcher. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas cette œuvre qui t'a fait commencer à jouer au Go, parce que je sais que tu joues au Go de temps en temps.
Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est bien. Ça qui m'a fait découvrir ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé.
Voilà, donc ouais. si vous voulez découvrir le monde des animés, vous pouvez aller voir Quartier lointain, Monster et Hikaru no Go, qui n'a pas de nom de titre
non,
en français.
Non, c'est son titre en français.
Ouais, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur Radio Galère 88.4. On se retrouve la semaine prochaine dans Kixa. Et en attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bon week-end à tous. Au revoir, Morgane.
Au revoir.
Radio Galère 88.4.